Chapitre 13. Djebra se massa frileusement les épaules, comme si le souvenir de la sonnerie de corne lui donnait encore la chair de poule. Après avoir inspiré à fond, elle leva de nouveau les yeux sur Richard et reprit le fil de son histoire.
Tous les gardiens allèrent participer à la défense de la ville, laissant le donjon sans surveillance. Mais bien entendu, les innombrables portes de fer qu'ils fermèrent à double tour interdisaient que quiconque réussisse à s'échapper. Sachant que personne ne les entendait, certains prisonniers se réjouirent de la chute imminente de Galéa. Ces imbéciles pensaient y gagner la liberté. Ils furent prompts à se taire quand des cris retentirent dans le lointain. Un silence de mort régnant dans le donjon, j'entendis le bruit des armes qui s'entrechoquaient, les cris de guerre et les hurlements de douleur. La bataille approchait de nos murs, la preuve que les défenseurs étaient submergés. En moins d'une heure, l'ennemi eut investi le palais. Y ayant vécu très longtemps, je connaissais beaucoup de gens dont le destin désormais...
Djebra s'interrompit pour essuyer ses larmes et se moucher.
« Désolée, » dit-elle, « je ne peux m'empêcher de pleurer. »
Elle revint à son récit.
Bientôt, j'entendis le bruit caractéristique d'un bélier qui s'attaque à des portes de fer. Celle du donjon étant solide, il fallut un moment pour qu'elle cède. Dès que ce fut fait, des dizaines de soldats enragés se déversèrent dans les couloirs de ma prison. Équipés de torches, ces brutes étaient sans doute en quête d'un trésor à piller. À la place, ils découvrirent des cellules puantes où croupissaient des dizaines de loqueteux, d'assassins, de voleurs et d'escrocs. Dégoûtés, ils repartirent en un éclair, nous laissant crever de terreur dans l'obscurité. J'ai cru qu'ils ne reviendraient jamais et que nous allions mourir de soif et de faim, mais je me trompais. Quand ils se remontrèrent, ils avaient avec eux des dizaines de femmes terrorisées, des membres du personnel du palais, bien sûr. Les Soudards voulaient profiter en paix de leur conquête sans devoir se battre contre des camarades jaloux. Ce que j'aperçus m'incita à me recroqueviller dans le coin le plus obscur de mon cachot. Mais cela ne suffit pas et je continuai à entendre les cris des femmes violées et les rires de leurs bourreaux. Quel genre d'homme peut s'esclaffer en commettant de telles atrocités? J'y ai beaucoup réfléchi et la réponse m'échappe toujours. Une des plus jeunes victimes de ces brutes parvint à leur échapper et courut comme une folle vers l'escalier. Des voix masculines crièrent qu'il fallait l'intercepter. Même si elle était rapide et forte, les sales types réussirent sans trop de mal à la rattraper et à la plaquer au sol. Quand elle implora les brutes de l'épargner, je reconnus sa voix. Par le guichet, je pus voir ce qui lui arriva. Alors qu'un homme la maintenait au sol, un autre lui posa une botte sur le genou et lui releva le pied jusqu'à ce que l'articulation explose. Insensible à ses cris de douleur, il fit subir le même traitement à son autre jambe. En riant, les deux soudards lui dirent qu'elle allait peut-être se concentrer sur son boulot maintenant qu'elle ne pouvait plus courir. Sur ces mots, ils recommencèrent à la besogner. De ma vie, jamais je n'avais entendu de tels hurlements. Des dizaines de vainqueurs vinrent dans le donjon avec leur butin vivant. L'horreur dura des heures et des heures, et chaque nouvel arrivage de malheureuses donnait lieu à des scènes déchirantes. Comme les monstres qu'ils sont, les hommes de Jagang ne firent jamais montre d'une once de pitié. Ayant trouvé un gros trousseau de clés, l'un d'eux entreprit d'ouvrir les cellules. Très content de lui, il fit sortir les prisonniers et leur annonça que l'heure de la justice venait de sonner pour les opprimer. En file indienne, les misérables qui croupissaient dans le donjon attendirent leur tour de se venger. Elisabeth, la jeune femme aux genoux brisés, n'avait jamais opprimé personne. Toujours souriante, elle venait travailler au palais d'un cœur léger. D'abord parce qu'elle était honorée de servir la reine, et ensuite à cause du jeune charpentier attaché au palais dont elle était amoureuse. Ravie d'être conviée à une orgie, tous les prisonniers sortirent de leurs cellules.
« Et toi ?» demanda Richard. « Ils ne t'ont pas forcé à quitter ton refuge ?»«
Ils ne m'ont pas vu, tout simplement. Dans le cas contraire, j'aurais subi le même sort que les autres femmes. Mais dans la pénombre, excités comme ils l'étaient par leur butin, les soudards ont dû croire que mon cachot était vide. Ça n'avait rien d'étonnant puisque toutes les cellules n'étaient pas occupées, loin de là. Si un soldat avait eu l'idée d'éclairer la minuscule pièce avec sa torche, mon destin aurait été scellé. Cela dit, j'étais la seule femme parmi les prisonniers et ils ignoraient ma présence. Dans le cas contraire, ils seraient venus me chercher, je n'en doute pas un seul instant. Mais là, ils avaient mieux à faire que fouiller les cellules.
Blanche comme un linge, Djebra se prit la tête à deux mains.
En ce qui concerne le calvaire de ces femmes, je refuse d'entrer dans les détails. Mais sachez tous que j'en aurai des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. Violer n'était pas le seul objectif de ces hommes. Assoiffés de sang, ils brûlaient du désir de dégrader leurs victimes, afin de bien établir qu'ils détenaient sur elles le pouvoir de vie et de mort. Lorsque la dernière suppliciée eut fini de souffrir, ces chiens décidèrent de partir en quête de nourriture et de boissons, histoire de célébrer dignement leur victoire. Quand ils revinrent, ils avaient capturé de nouvelles femmes, bien entendu. Comme une bande de bons copains, ils jurèrent alors de ne pas avoir de repos tant qu'ils n'auraient pas violé toutes les garces du Nouveau Monde.
Avec les deux mains, Djebra écarta les mèches vagabondes qui lui tombaient devant les yeux.
Après une petite éternité, les soudards de Jagang désertèrent le donjon pour aller s'amuser ailleurs. Des heures durant, je restais pourtant tapis dans l'ombre, mordant l'ourlet de ma robe pour ne pas me trahir en gémissant de peur. L'odeur du sang et de fluides moins nobles montait à mes narines, me donnant envie de vomir. Mais avec le temps, je finis par m'habituer. C'est étrange comme l'être humain s'accoutume à tout lorsque sa survie est en jeu. Mourant de peur qu'on me découvre et m'inflige le même traitement qu'aux autres, je n'osais pas bouger. Alors que mon esprit dérivait vers un état de semi-conscience, je compris enfin le calvaire qu'avait vécu Cyrilla. Elle était folle, nul ne pouvait le nier, mais il y avait d'excellentes raisons. Dehors, la bataille continuait et j'en captais toujours les échos. Alors qu'une odeur de brûlé s'infiltrait jusque dans mon cachot, je me dis que ce massacre durerait jusqu'à la fin des temps. Au moins, les femmes qui gisaient dans les couloirs ne souffraient plus, et c'était déjà ça de gagné. Si les esprits du bien consentaient à les accueillir et à les réconforter, elles finiraient peut-être par trouver la paix un jour. Si épuisante que soit la terreur, surtout lorsqu'on l'éprouve en permanence, je ne parvenais pas à fermer les yeux. Inutile de dire que la nuit me parut interminable. Au matin, la lumière que n'arrêtait plus la double porte de fer envahit le donjon et réussit à parvenir jusqu'à mon couloir. Cela ne m'incita pourtant pas à sortir. Serré contre le mur du fond de mon cachot, je perdis le compte des heures et fus très surprise lorsque la pénombre reprit ses droits dans le couloir. Toute une journée venait de passer, vraiment. Dehors, la bataille avait cessé. C'est dans la place à une ignoble célébration, à base de viols et de beuveries. L'aube suivante arriva sans que les ardeurs criminelles des soldats se soient épuisées. Rester où j'étais ne semblait plus possible. Malgré l'extraordinaire résilience du corps humain, l'odeur de décomposition devenait intolérable et je ne supportais plus l'idée d'être prisonnière au milieu d'un gigantesque charnier. Pourtant, je ne pus me résoudre à bouger. Passant une nouvelle journée et la nuit suivante, à proximité des dépouilles rongées au vert de femmes que je connaissais presque toutes, au moins de vue. Crevant de faim et de soif, je commençais de voir des gobelets d'eau et des tranches de pain sur le sol, à moins d'un pas de moi. Mais bien entendu, lorsque je tendais une main, c'était pour la refermer sur le vide. Alors que les heures s'égrenaient, mon état d'esprit changea. Las d'avoir peur au point de ne pas oser me lever, je commençais à accepter l'idée de ma fin, voire à l'appeler de tous mes vœux. Sans illusion au sujet de ce qui m'attendait, je songeais cependant que tout valait mieux que cette angoisse perpétuelle. Même au prix de souffrances et d'humiliations inimaginables, j'entendais en finir. Une fois morte, comme les victimes des soudards, plus rien ne pourrait m'atteindre. C'est cette idée qui me donna le courage de sortir de mon trou. Dès que je fus dans le couloir, je croisai le regard d'Élisabeth. Un regard plein de reproches, comme si elle attendait depuis 2 jours que je vienne voir ce qu'on lui avait fait. Oui, Je devais graver son image dans ma mémoire afin de pouvoir un jour témoigner devant un tribunal. Mais quel tribunal? Et pour déposer devant quel juge? Tout était perdu, et le pauvre cadavre mutilé de la gentille jeune fille ne serait jamais vengé. Les autres femmes gisaient tout autour d'Élisabeth et dans les couloirs adjacents. Découvrir la nature de leurs blessures me permit de reconstituer leur calvaire avec une précision qui me glaça les sangs. Si je devais mourir comme ça, eh bien je... La panique me submergeant, je me couvris le nez et la bouche avec l'ourlet de ma robe et me mis à courir comme une folle entre les cadavres et les flaques de sang séché. Sans avoir la moindre idée de ma destination, je m'engageais dans un escalier. Fuir était tout ce qui comptait, et si je devais m'arrêter, j'implorais le Créateur de m'accorder une fin rapide. Sans savoir comment, je me retrouvais dans la partie civilisée du palais. Depuis toujours, j'étais sensible à la beauté de la résidence royale, et les récentes rénovations, après la première attaque, témoignaient du goût des artisans venus participer à leur façon au renouveau de Galéa. Hélas, il ne restait plus rien de cette splendeur. Avec une joie mauvaise qui me dépasse, les soudards ne s'étaient pas contentés de piller le palais, et ils avaient saccagé tout ce qu'ils avaient pu emporter. Les portes arrachées de leurs gonds, les colonnes de marbre renversées, les meubles brisés menus comme pour en faire du bois de chauffage. Partout, le plancher était couvert de fragments d'objets de valeur, réduits en miettes par les vainqueurs. Des doigts, des nez, des oreilles de porcelaine voisinaient avec des fragments de bois délicatement sculptés, puis dorés avec tout l'amour d'un artisan pour son métier. Les tables et les guéridons aux pieds fracassés gisaient sur le flanc comme de grands animaux blessés à mort. Lacérés à coups de couteau ou écrasés sous des semelles de bottes, les superbes tableaux de la collection royale étaient irrécupérables. Entre les fenêtres à l'encadrement brisé et aux vitres explosées, des statues décapitées étaient souillées de vomissures et d'excréments. Poisseuses de sang, les tentures arrachées recouvraient à demi des cadavres mutilés au-delà de l'imaginable. Les plus belles chambres étaient systématiquement transformées en latrines. Sur leurs murs, tracés avec de la matière fécale, des mots obscènes voisinaient avec des menaces de mort visant les vils oppresseurs du Nouveau Monde. Il y avait des soudards partout. Occupés à fouiller les débris laissés par des camarades plus chanceux, ces charognards finissaient aussi de dépouiller les cadavres. Riant aux éclats, d'autres bouchers attendaient leur tour devant des salles de bal transformées en bordels de campagne. Histoire de passer le temps, ces brutes s'acharnaient à détruire les rares choses encore intactes. Alors que je traversais le palais perdu dans un brouillard qui me protégeait en partie de l'horreur, il me parut soudain évident que je finirais dans un de ces bordels improvisés, besogné par des dizaines d'hommes, avant que l'un d'eux ait la bonne idée de m'égorger ou de m'éventrer. Je n'avais jamais vu de pareils barbares. Des colosses puant la crasse et la sueur, vêtus de cuirasses rouges de sang. Le torse barré de ceintures de cuir clouté ou de chêne. La plupart de ces soudards avaient le crâne rasé, une manière de paraître encore plus menaçant. D'autres arboraient des crinières tellement sales et emmêlées qu'il aurait fallu une hache pour les couper s'ils y avaient songé. Avec leurs visages tachés de suie, rien de plus logique pour des incendiaires. Les glorieux soldats de l'ordre paraissaient à peine humains. Leur présence dans des salles d'apparat où le raffinement régnait en maître semblait presque comique. Mais qui aurait eu l'idée de rire en découvrant leurs haches aux tranchants rouges de sang, leurs épées aux fils souillés de fluide noir et leurs masses d'armes incrustées de matière cérébrale? Djebra se tut un instant et frissonna comme si elle était gelée jusqu'à la moelle des os. Le pire restait pourtant leurs yeux. Dans leur regard, on voyait qu'ils n'étaient pas blasés à force de voir des horreurs, mais en retirait au contraire une extase toujours renouvelée. Face à une créature vivante, une seule question leur traversait l'esprit. Tuer ou ne pas tuer, au moins dans l'immédiat. Lorsqu'il s'agissait d'une femme, leur cruauté dépassait tout ce que j'aurais cru possible. À certains moments, j'en eus le souffle coupé, comme si leur manière d'évaluer froidement une proie était déjà une sorte de viol. Ayant oublié jusqu'au sens du mot « civilisation », Ces tueurs ne réfléchissent plus comme des hommes normaux. Rétifs à l'idée même de négocier, ils prennent ce qui leur fait envie et sont même capables de s'égorger entre eux pour un butin dérisoire. Croyez-moi, ils assassinent, violent et pillent sans éprouver de tourment de conscience. Libérés de la notion même de morale, ces bêtes sauvages s'offrent le plus grand festin de sang de l'histoire pourtant cruelle de l'humanité.